marché et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les mystères d'Alésia. César campa devant Alésia. S'étant rendu compte de la force de la position, il exhorta ses soldats au travail et entreprit l'investissement de la place. Jules César, la guerre des Gaules. D'histoire. L'histoire étant toujours écrite par les vainqueurs, c'est à Jules César que l'on doit le seul récit de la guerre qui, il y a plus de 2000 ans, a opposé ses légions aux armées gauloises de Vercingétorix. Si les aventures d'Astérix nous font aujourd'hui sourire, elles nous font aussi oublier que cette guerre des Gaules, comme l'appela César, fut un véritable carnage, 1 million de morts en 8 ans, jusqu'à la défaite des Gaulois dans une des plus grandes batailles de l'Antiquité. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler d'Alésia, des hauteurs sur lesquelles les Gaulois assiégés ont tenu tête aux légions pendant des mois, et des immenses fortifications romaines sur lesquelles se sont brisées les armées gauloises venues au secours de Vercingétorix. César lui-même a consacré plusieurs pages de sa guerre des Gaules à sa victoire qui lui ouvrait les portes du pouvoir à Rome. Mais il n'a jamais donné de précision sur le lieu exact où s'était déroulée la bataille, si bien que pendant des siècles, on s'est demandé où était né un des mythes fondateurs de l'histoire de France, l'endroit exact où, en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix avait jeté ses armes aux pieds de Jules César.
Je suis venu t'offrir l'éclat de ta victoire, que Rome validera, et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle. Gravé dans quelques pierres indestructibles, ou rappelé par des flammes éternelles.
Je t'ai offert d'être roi.
Alors accepte la reddition d'un roi.
Daniel Porte, bonjour. Alors c'était bien sûr la fameuse scène de la reddition de Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ, au terme du siège de la bataille d'Alésia. Mais dans votre livre, L'imposture d'Alésia, vous parlez-vous d'une autre bataille qui est celle qui, depuis plus de 150 ans à peu près, oppose les historiens et les archéologues sur l'emplacement exact d'Alésia. Et contrairement à la plupart d'entre eux qui soutiennent qu'Alésia est en Côte d'Or, vous dites que le site se trouve en fait dans le Jura. Alors nous y reviendrons bien sûr, hein, parce que vous êtes, les historiens qui défendent cette idée sont très minoritaires, les archéologues aussi. Mais je voudrais que, puisque les uns et les autres vous appuyez sur le même récit, ce qui est de la guerre des Gaules, je voudrais que vous nous rappeliez comment César décrit Alésia, César étant le seul, je crois, témoin à avoir parlé au fond de cette bataille.
Il n'est pas exactement le seul, en tout cas il est le seul témoin oculaire, mais il y avait autour de lui son état-major, il y avait des jeunes gens qui écrivaient leurs mémoires et qui ont laissé des relations du siège. Malheureusement, nous ne les avons pas, nous avons simplement des attestations de ses écrits. Nous savons que César lui-même avait écrit des éphémérides, autrement dit son journal de campagne. Et dans ses éphémérides, il raconte des anecdotes comme le fait qu'il a été fait prisonnier, le fait qu'il a perdu son glaive qui est dans un sanctuaire arverne. Mais cela, nous ne le savons pas. Simplement, nous savons qu'il l'écrivait dans ses éphémérides. La guerre des Gaules, il l'a conçue comme un recueil de faits historiques qui devaient servir à écrire l'histoire.
Alors à son propre profit, puisqu'on le sait, ça lui permettra effectivement de se hisser au sommet du pouvoir à Rome. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, parce que c'est tout le problème au fond du site d'Alésia, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, voilà, ça se trouve à tel endroit?
Il y a beaucoup de raisons. À vrai dire, les gens de Rome qui n'avaient jamais mis les pieds en Gaule ne devaient pas être particulièrement intéressés par une localisation précise. Ensuite, il y a beaucoup de flou parce que la géographie n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui. Ensuite aussi, César a donné des indications, mais on dirait qu'il a voulu jouer au jeu de la piste au trésor en semant quelques petites indications, mais qui ne sont pas à notre gré assez précises. S'il avait dit exactement « Alésia est à tel endroit », nous ne serions pas là en ce moment. Mmh. Il a simplement dit qu'il s'agissait de « Alésia mandubiorum », l'Alésia des Mandubiens. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de places fortes dont le nom est formé sur « als », qui veut dire la hauteur ou la falaise. D'ailleurs, falaise en vient directement. Et donc, c'est l'Alésia des Mandubiens, alors qu'il devait exister d'autres Alésia, comme l'Alésia des Éduins, après tout, pourquoi pas, ou d'autres fortifications dont il était nécessaire de préciser à quelle province elles appartenaient.
Alors là, il ne les donne pas. Je sais qu'on a dit qu'il passait au pays des Séquanes. Les Séquanes, ça se trouve dans le Jura. Ça accrédite plutôt l'idée qu'Alésia se trouvait justement dans le Jura.
Là aussi, c'est un de ces clins d'œil, si l'on peut dire, de l'histoire, ou une de ces mauvaises farces de l'histoire. César a dit qu'il allait in Séquanos, c'est-à-dire pour entrer dans le pays des Séquanes. C'est Dion Cassius, un écrivain grec, qui a précisé que César avait été arrêté dans le pays des Séquanes. Donc là, c'est situé sans aucun problème dans le pays des Séquanes. Mais César lui-même n'a rien dit de plus. Mmh. Et donc, on discute, y était-il ou n'y était-il pas encore?
En revanche, il est très précis sur ce qu'il voit à Alésia et sur ce qu'il fait.
Ah,
il décrit donc cette espèce de hauteur qui est un oppidum, au sommet duquel se trouve Alésia, les murailles gauloises et surtout ces fortifications extraordinaires qu'il a construites autour d'Alésia, à la fois pour empêcher les Gaulois qui s'y trouvait de sortir, et pour empêcher l'armée de secours qui devait justement aider Vercingétorix à venir à Alésia. Autrement dit, il se fortifie des deux côtés, hein, vers Alésia et puis de l'extérieur. Comment est-ce qu'on appelait d'ailleurs ces fortifications?
La contrevallation, c'est-à-dire contre la ville, si vous voulez, et la circonvallation, c'est-à-dire contre l'armée de secours qui éventuellement viendrait. Au départ, il n'avait pas prévu la circonvallation, étant donné qu'il ne prévoyait pas l'arrivée d'une armée de secours.
C'était énorme, la distance, il donne très précisément longueur de ces fortifications, plus de 16 kilomètres de long.
16 kilomètres 280, très exactement, pour la contrevallation, et 20 kilomètres 720 pour la circonvallation. Évidemment, nous n'en sommes pas à un mètre près.
Alors, on connaît la suite, les armées de secours venues au secours de Vercingétorix vont se briser sur ces fortifications, Vercingétorix va se rendre, il est envoyé à Rome, où César va le faire étrangler 6 ans après, et puis alors, dans la Gaule, qui devient gallo-romaine, bien sûr, il n'est pas question de parler d'Alésia, qui est condamnée à l'oubli, hein, dites-vous, la damnatio memoriae. Plus question de prononcer même le nom d'Alésia.
Non, c'est ce qui arrivait aux cités qui avaient mis Rome en échec ou en simplement en péril. C'est encore Dion Cassius qui le dit d'ailleurs, que dans ces cas-là, on se met parfois du sel sur les ruines, qu'on fait Carthage. Mais en tout cas, le nom n'existait plus. Or, le nom chez les Romains, c'est ce qui fait l'existence, c'est ce qui fait l'essence ou la personnalité ou simplement l'être. Donc si l'on condamne le nom, on condamne l'être. Par exemple, on martelait les noms des vestales coupables sur les socles et donc elles cessaient d'avoir eu une existence.
Donc on ne parle plus d'Alésia, hein, jusqu'au XIXe siècle, lorsque Napoléon III décide d'organiser des fouilles sur le site qui est considéré aujourd'hui comme étant celui d'Alésia, à l'Isse-Sainte-Reine, en Côte-Rhône, où les paysans d'ailleurs sont très fiers, bien sûr, d'avoir sous les pieds les vestiges d'une des plus célèbres batailles de l'histoire. On écoute l'un d'eux au micro de Geneviève Ladouès en 1996 à l'Isse-Sainte-Reine.
Monsieur Collot, qu'est-ce que ça représente Alésia pour vous?
C'est la bataille de Vercingétorix. Mais non, on l'a appris à l'école. Bon, après, on a entendu parler par nos anciens de la bataille d'Alésia.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient de la bataille d'Alésia, les anciens?
C'était une victoire dans notre région et qu'Alésia était bien ici, contrairement à ce que beaucoup pensent.
Et vous saviez qu'à cet endroit-là, il y avait des vestiges?
Ah oui, je le savais. Je le savais d'autant plus que quand mon grand-père a acheté la ferme en 1930, il a repris un homme qui était sur la ferme, un employé qui était sur la ferme, qui lui avait trouvé des objets relatant de la bataille d'Alésia.
Et qu'est-ce que c'était comme objet?
Bon, je sais qu'il avait retrouvé un sabre et il avait retrouvé une cafetière, qui sont exposées au musée à l'Isse-Sainte-Reine.
Alors passons sur le fait, ça vous a fait beaucoup rire, Daniel Porte,
oui.
Que à l'époque de Vercingétorix, on ne connaissait ni les cafés, ni bien sûr les cafetières, en tout cas en Gaule. Alors pourquoi, en tout cas, est-ce qu'au XIXe siècle, on a choisi, parce que c'est bien avant ce reportage, on a choisi Alice Saint-Reine pour dire, eh ben, Alésia, finalement, c'était là. Donc je répète, en Côte d'Or, non loin de Dijon. C'est évidemment, on pense à la toponymie, hein, Alésia, Alice, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on a choisi Alice Saint-Reine.
C'est essentiellement pour cela, oui. Napoléon III lui-même a hésité entre Alise et Alèze, dans le Doubs. Il s'est décidé pour Alise, parce que, d'ailleurs il a eu tort, parce que Alèze était encore plus proche, toponiquement parlant. Mais enfin, il s'est décidé pour Alise, mais il a fait, c'est une petite parenthèse, d'autres bourdes historiques du même acabit, avec Uxellodunum, par exemple, qui est à Cap de Nac dans le Lot, mais il l'a mise au puits dissolu, parce que issolu, uxellodunum, c'est la même chose.
Alors, Alice, il faut rappeler aussi que y a quelque chose qui a peut-être semé la confusion, c'est-à-dire bien avant Napoléon III, au IXe siècle, il y a un poète, enfin un moine d'Auxerre, qui a écrit un poème dans lequel il avait écrit « Toi aussi, Alisia », c'est-à-dire Alice Saint-Reine, « Toi aussi, Alisia », où s'est déroulé le destin de César. Donc, on se dit, bah, tiens, au fond, si ce poète, qui s'appelait, je crois, Éric, c'est ça ?
Éric d'Auxerre, oui.
Dit ça, c'est qu'effectivement, c'est à Alise Saint-Reine que ça s'est passé.
Je crois que c'est né dans son imagination, malheureusement, et nous sommes beaucoup à le penser, parmi les latinistes en particulier. Il avait à faire une sorte d'éloge de Saint-Reine, dont les cendres étaient justement transportées d'Alise Saint-Reine à l'abbaye de Flavigny. Et voulant illustrer le souvenir de Saint-Reine et de l'endroit où elle avait été enterrée, il a donc établi un parallèle entre Alise et Alésia. Mais c'est uniquement un poème à 12 oumes, si vous voulez, pour l'occasion. Un poème de circonstance. Et il n'a pas fait attention que c'était Alise et pas Alèze qui avait donné le nom d'Alise.
Alors, cela dit, si Napoléon III décrète quasiment, officiellement que Alice Saint-Reine, c'est Alésia, c'est qu'on y fait aussi des découvertes. Mais des découvertes assez troublantes en vous lisant. Par exemple, on découvre des pièces de monnaie. Il y a un vase aussi en or, un statère d'or de Vercingétorix, etc. Ça pouvait confirmer l'idée que, effectivement, c'est à Alise que s'est déroulée la bataille d'Alésia.
À vrai dire, les découvertes en question sont plutôt, elles sont magnifiques. Je ne veux pas dire du tout que le statère d'or soit à négliger, que le vase de l'époque de Néron, qui serait de facture pompéienne, et ne soit pas à considérer en tant qu'objet d'art. Mais il est à parier qu'on les a apportés peut-être intentionnellement afin que l'empereur les découvrît lorsqu'il venait voir les fouilles. Et nous avons pour cela un témoignage que nous répétons depuis longtemps, et auquel personne n'accepte de prêter intérêt, c'est celui d'un ouvrier des fouilles qui s'appelle Amaudru, et qui disait « Je fouillais hier dans les fossés, il y avait des brassées d'armes qui n'y étaient pas la veille, je me demande si on ne les avait pas mises là tout exprès. » Et elles étaient même enveloppées dans des paquets, donc ouais. Si elles avaient été perdues par les combattants, il y a fort peu de chances qu'elles aient été trouvées dans cet état. Les monnaies aussi, ouais. Beaucoup de monnaies, et des monnaies, dispersés sur 500 mètres de terrain, en proportion des contingents qui avaient été envoyés par les différentes tribus. Donc, admettons qu'il y ait une trentaine de tribus, 30 tribus tenant sur 500 mètres, c'est assez difficile
à
envisager.
Oui, alors justement, ça c'est ce que vous dites aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait qu'Alise serait Alésia, c'est, et d'ailleurs beaucoup d'historiens sérieux l'ont reconnu, c'est la topographie. Le site d'Alise est trop petit pour avoir contenu le nombre de défenseurs et d'habitants d'Alésia qu'assiégeait Jules César.
Ah, certainement. 97 hectares, ça n'est pas gigantesque.
Pour 100 000
selon
personnes, selon...
Pour, oui, 80 selon 000, selon César, 80 000, plus tout de même au début du siège, les 15 000 cavaliers, plus la population des Mandubiens. Il ne faut pas oublier les chevaux, qui dit cavalier dit cheval, les gens qui s'occupaient des chevaux, les troupeaux dont Vercingétorix avait fait entrer une grande quantité dans Alésia en prévision d'un siège, donc... Comme il avait prévu un mois de siège, même chose, d'ailleurs César avait prévu aussi pour un mois de siège, ça fait beaucoup de porcs.
Oui,
et
mais Daniel Pant, est-ce qu'on peut se fier à ce que disait Jules César? Il y a beaucoup d'historiens, dont un grand historien au XXe siècle, Carcopino, hein, qui était un spécialiste de l'histoire romaine, et qui a dit ben, César a exagéré, il voulait se faire mousser aux yeux des Romains, donc il a agrandi le nombre des défenseurs d'Alésia et le nombre de ceux qui l'attaquaient.
Oh, je ne crois pas. César est quelqu'un dont Hirtius, son lieutenant, celui qui a écrit le 8e livre de la guerre des Gaules, dit qu'il était d'une exactitude et d'une rigueur absolue. Et Hirtius n'était pas payé pour le faire. Et puis, il y avait beaucoup de gens autour de lui. N'oublions pas qu'il y avait les trois quarts des gens qui ensuite participeront à la fameuse conjuration des îles de Mars. Et si César avait vraiment exagéré, je suis persuadée que des gens comme le frère de Cicéron, comme Asinius Pollion, par exemple, d'autres encore, se seraient fait un plaisir, étant ses ennemis politiques, de venir dire à Rome, il nous a raconté n'importe quoi.
Alors, vous semblez dire, au fond, Daniel Porte, que quand Carcopino dit César exagère, au fond, il veut accréditer l'idée que c'est Alice Sainte-Reine, la véritable Alésia, parce que, et que donc c'est César qui a menti. D'ailleurs, je crois même qu'il a inventé une population de manière à ce que ça colle avec le récit de César. Il a inventé les Séquanes de l'Ouest. Ça lui permettait de dire, il y a les Séquanes du Jura, mais il y a aussi les Séquanes de l'Ouest. Eux, ils sont en Bourgogne, donc c'est à Alésia que s'est déroulé, à Alice Sainte-Reine que s'est déroulé Alésia.
Précisément, précisément. Carcopino a une imagination débordante, je l'ai toujours vénéré, mais par moments j'ai cessé de le vénérer quand il s'est trompé manifestement. Et là, les Séquanes de l'Ouest, je crois que c'est une des plus belles trouvailles qu'on ait pu inventer en histoire.
En tout cas, il s'accroche, comme la plupart des historiens, à la thèse officielle qui veut qu'Alésia doit que son Alice soit Alice Sainte-Reine. Et l'affaire semble classée, on élimine toutes les concurrentes, Alèse, etc. Jusqu'à ce qu'au début des années 60, on découvre... et on commence à parler d'un autre site possible concurrençant Alice Sainte-Reine et qui se trouverait dans le Jura, où l'on a trouvé donc des vestiges de ce qui devait être la bataille, de ce qui pouvait être la bataille d'Alésia. Écoutez cet extrait du Pays d'ici, d'Irène Omelianenko en 1996.
Avec François Jacquot, dans le Jura, sur le site même de Siam, Chaude-Crotenay.
Donc ici, nous sommes sur le mur Procastris, qui est un agencement militaire, un agger, ce qu'on appelle un agger en termes militaires, qui est un mur avec un système de fossés devant, sur lequel est édifié un système de palissades et de tours. Nous avons également découvert des clous avec notre détecteur de métaux. Nous avons donc sondé l'état de pierre et de terre, et nous avons découvert des clous de palissades, et également des clous de sandales romaines. Et ça, je dois dire, c'est très très émouvant, quoi. On imagine qu'il y a 2000 ans, il y a un légionnaire qui a perdu ses petits clous.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les mystères d'Alésia, et puis ce reportage que l'on vient d'entendre, Daniel Porte, sur un site qui est pris au sérieux par beaucoup d'historiens, dont vous, c'est Siam et Chaude et Crotenay, on l'a entendu, dans le Jura. Alors c'est un site qui a été découvert par un archéologue extrêmement renommé qui s'appelait André Berthier. Deux mots là-dessus et sur la façon dont il a découvert ce nouveau site.
André Berthier est parti de là où on devrait partir, c'est-à-dire le texte de César. Au lieu de prendre un endroit au hasard et de fouiller, il est parti du texte de César. Et il a extrait de ce texte toutes les composantes stratégiques, d'abord géographiques bien sûr, ensuite stratégiques, tactiques, etc., qui pouvaient donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler Alésia dans l'absolu. Il a ensuite fait réaliser des cartes, des portraits robots, comme on dit, et il a promené ses calques, si l'on peut dire, sur la carte de France, naturellement une carte très très détaillée.
Une carte d'état-major,
oui. Oui, bien sûr. Il a éliminé 300 sites, c'est dire, jusqu'au moment où sur la carte est apparu un relief qui correspondait tellement bien avec son portrait dans l'absolu qu'il a pu établir la ressemblance déjà en soi des deux, du site et de César. Ensuite, eh bien, il y est allé voir et il s'est aperçu que ça collait admirablement. Géographiquement d'abord et pour la suite aussi.
Alors il se tourne vers le ministre de la Culture qui est à l'époque André Malraux. Et qui voit plutôt d'un bon œil cette idée-là, puisqu'il donne des autorisations de fouilles.
De sondage, attention.
Sondage.
De sondage. C'est-à-dire de petits trous les uns un peu espacés des autres. Pas du tout de grandes tranchées, malheureusement. Oui, c'est André Malraux qui a permis un certain nombre de sondages qui ont été effectués au camp Nord, c'est-à-dire à l'endroit de la bataille décisive qui a décidé du sort de la bataille d'Alésia, si l'on peut dire. Et là-haut, il y a eu des sondages qui ont révélé des objets, et des objets extrêmement intéressants, puisqu'il y a de la poterie républicaine de l'époque de César, donc, qui n'aurait rien à faire là-haut à une époque où la Gaule n'était pas encore romaine. Mmh. On a un fond de pater républicain, et on a surtout une superbe clé en fer et bronze, qui a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis, on a énormément de morceaux de céramique de tous ordres, de boucles de ceinturon, de clous, les clous nous les comptons par milliers, et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on nous dit que le site était archéologiquement nul avant de venir y voir d'ailleurs, ou bien que, je ne citerai pas la personne qui l'a dit, mais qu'on a eu 30 sondages et pas un seul tesson, c'est un mensonge abominable.
On a découvert aussi ce qu'on appelle des lilias, c'est-à-dire des cônes dans lesquels se trouvaient des pieux ou des restes de pieux, c'est-à-dire les pièges que décrivait Jules César lui-même.
Bien sûr, et nous les avons trouvés là où il le fallait, c'est-à-dire justement à ce camp Nord. Ils sont épointés, c'est-à-dire durcis au feu, calés par des pierres au fond des cônes, et ils sont en quinconce. Là, la découverte a été fortuite. C'est-à-dire qu'un paysan, M. Tissot, qui traçait une tranchée pour ses travaux agricoles, a trouvé dans le flanc de la tranchée des sortes de cônes.
Oui, mais alors justement,
et il a alerté Berthier.
Alors, Berthier, le pauvre, il a eu des tas de problèmes, parce qu'on a interrompu à plusieurs reprises les sondages, puis les fouilles. Il a contre lui le Conseil supérieur de la recherche archéologique, qui s'accroche à l'hypothèse d'Alise, Carcopino, qui n'est pas mort, qui meurt en 1970, qui d'ailleurs est un peu sceptique, lui, il commence à se poser des questions.
Oui, commence à se poser des questions, parfaitement, oui.
Et puis alors, malgré tout, on empêche, au fond, ces fouilles de se produire. On dit que ces fameux lilias sont des accidents de la végétation.
Oui. On a dit aussi que les tours romaines, enfin les bases de tours romaines, pouvaient être des moraines. Alors des moraines à flanc de pente et perpendiculaires à la pente, ça paraît quand même un peu curieux. On nous a parlé de tas d'épierrements pour les tumulus, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est encore une parenthèse, qu'Alésia était la métropole religieuse de toute la Celtique. C'est immense, une métropole religieuse. Et ça suppose donc quantité de monuments religieux, ou du moins de menhirs, de dolmens, de pierrailles, si vous voulez, mais disposés comme il faut. Donc ce ne sont pas des tas d'épierrements.
Les fouilles ont été interrompues ou pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Ah ben, il n'y a plus de fouilles depuis belle lurette.
Alors justement, en revanche, des fouilles, on autorise à ce qu'elles se poursuivent sur un autre site, sur le site toujours le même, d'Alise Sainte-Reine. Écoutez, Michel Redé, qui en est un des responsables, défendant bien sûr ce site d'Alise Sainte-Reine contre tous les autres, au micro de Vincent Charpentier en 1996.
Dès le début des fouilles, une partie des savants de l'époque tenait pour d'autres sites. Alors, on s'est longtemps battu. On continue à se battre, mais il faut dire que le seul endroit où l'on n'ait jamais découvert des vestiges archéologiques, c'est bien la liste Sainte-Reine.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de vestiges archéologiques dans le Jura?
J'attends toujours que l'on trouve quelque chose, quoi que ce soit, dans cette région. Et on m'a proposé récemment, d'une manière un petit peu incongrue, d'abandonner les fouilles d'Alésia, où l'on trouve l'ensemble des vestiges militaires de César que l'on connaît, pour aller fouiller dans un endroit où on ne connaît rien, pour montrer justement qu'il n'y avait rien. C'est une curieuse façon de dépenser l'argent public, et j'ai naturellement refusé cette séduisante proposition.
Alors évidemment, Daniel Porte, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que l'on vient d'entendre, puisque Michel Redé défend Alise Sainte-Reine Alésia, et considère qu'on n'a pas de temps à perdre avec votre site du Jura.
Il faudrait d'abord, avant de dire qu'un site n'enferme rien, si l'on peut dire, prendre la peine de venir voir s'il n'y a rien eu. Or, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une quarantaine de caisses diverses renfermant les objets les plus divers qui ont été trouvés lors des sondages autorisés. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à chaud, ça n'est pas vrai.
Mais pourquoi refuse-t-on justement ces fouilles dans ce site possible qu'est justement Siam et l'autre village
et chaud. Oui. Mais j'aimerais bien que vous me le dissiez, au contraire. On aimerait savoir pourquoi. Est-ce que c'est l'immobilisme? Est-ce que c'est le refus d'avouer qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est la paresse intellectuelle? Est-ce que c'est surtout le tourisme? Parce que ces temps-ci, nous voyons poindre à l'horizon quantité de réflexions d'élus divers qui nous disent « Mais le tourisme, l'économie, c'est ce qui est primordial. La vérité historique, après tout, et on a un haussement d'épaule. Ce qui est quand même tragique.
Puis ça remet en cause quand même, effectivement, ce qu'on apprend aux enfants depuis des générations. Ça remet en cause la crédibilité des historiens ou des archéologues.
Ça remet tout en cause, et y compris la datation. Parce que pour dater le métal, on a de grandes difficultés, sauf avec des procédés nucléaires, mais c'est tout récent. On ne peut pas dater le métal autrement que par comparaison. Donc, lorsqu'on trouve quelque part une arme quelconque, on la compare à une arme de Saint-Germain-en-Laye, trouvée à Alise-Sainte-Reine, et on en conclut, cette arme date de 52 avant Jésus-Christ. Si Alise n'est plus Alésia, à ce moment-là, toute la datation du métal s'effondre.
Mais au fond, bon, c'est évidemment ce que vous venez de dire est important, mais est-ce que c'est très important qu'Alésia se trouve dans le Jura ou en Côte d'Or pour une bataille qui s'est passée il y a plus de 2000 ans? Quelle importance, Daniel Porte? Pourquoi cette bagarre des archéologues, des historiens? Je répète encore une fois, vous défendez une thèse qui est la vôtre, hein, je tenais à ce qu'elle s'exprime à l'antenne, mais elle est très minoritaire, hein, la thèse du Jura.
Oui, monsieur Redé nous laisse 0,000001 de possibilité, donc c'est tout petit. Mais pour nous, c'est la vérité historique qui compte. Pour Chaudet-Crotenay, nous avons des gens venus de tous les horizons possibles, de toutes les extractions sociales, intellectuelles possibles, mais nous en tenons pour la vérité historique. Le tourisme nous est absolument égal.
Vous êtes sûr que c'est la vérité, Chaudet-Crotenay?
Je crois.
Vous m'avez ébranlé, je ne suis pas convaincu encore, mais bon, vous croyez. Ah, vous croyez, vous êtes...
J'en suis à peu près sûr. Alors moi, 99,99999%.
Oui.
Étant donné que... Ce qui est important tout de même, à côté des luttes de région, c'est la figure qu'on prête à Vercingétorix. Dans le cas d'Alice Sainte-Reine, c'est un imbécile qui se réfugie sur la première taupinière venue. Dans le cas de Chaudet-Crotenay, c'est quelqu'un qui a tenu tête à César, qui l'a mis en grand péril. Et ça, c'est plus tard que qu'il le dit. Il a été à deux doigts de sa fin, César, à ce moment-là. Il était pris en sandwich.
Eh bien, écoutez, merci Daniel Porte. Nous réservons bien sûr un droit de réponse aux partisans d'Alice Sainte-Reine. Mais ça n'empêche pas qu'il fallait qu'on vous écoute et puis qu'on lise aussi votre livre, donc L'imposture d'Alésia, qui a été publié aux éditions Carnot. Vous avez pu entendre un extrait du film Vercingétorix de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert dans le rôle de Vercingétorix. C'est pas le meilleur film qu'on puisse trouver sur cette époque, mais enfin, on a écouté. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Virginie Bloch-Léné, Claire Tessier et Cédric-Joseph Julien. Une réalisation de Anne Kobilac.